Chapitre 7. Rémi Boisléger, garçon intelligent, instruit, issu d'une excellente famille, qui lui avait donné une bonne éducation, était doué d'une sécheresse de cœur absolue, qui avait annihilé tous les dons que le destin lui avait prodigués. Il avait ainsi perdu toute espèce de sens moral, et l'unique objectif de toutes ses actions était sa satisfaction personnelle. Appliquant à toute chose la théorie du moindre effort pour la plus grande jouissance, il s'était interdit de se livrer à un travail sérieux quelconque. Il préférait vivre au jour le jour d'expédients, en attendant les escroqueries, car la pente est fatale. Camarade de collège de Marius Duplan, Rémi avait toujours trouvé moyen de dissimuler le vrai fond de sa nature à son crédule ami, et avait sur lui inspiré une profonde affection. Cette camaraderie avait été pour beaucoup dans la ruine de Max, qui s'est trouvé entraîné dans le monde que fréquentait son ami, ce dernier jugeant commode d'être l'inséparable d'un copain à la bourse bien garnie, à la main large et au cœur généreux. Un an environ avant les événements que nous venons de raconter, Rémi Boisléger avait été mis en relation avec un de ces hommes d'affaires, comme il y en avait tant à Paris, qui ont toujours là vous proposer une combinaison merveilleuse grâce à laquelle vous devez devenir riche en quelques mois. Cet homme d'affaires se nommait M. Samuel Lehmann. Il lançait justement à ce moment-là une mine d'argent dans les Pyrénées. Les bénéfices de cette mine n'existaient encore que sur le papier, mais les espérances étaient magnifiques. Boisléger, qui sentait ses dettes augmenter en proportion de son horreur pour le travail, et qui se doutait que l'aide de Max allait bientôt lui faire tout à fait défaut, s'enflamma à l'idée de gagner tout d'un coup une fortune et se lança tête baissée dans cette aventure. Il s'associa donc à Lehmann, amena son ami comme bailleur de fonds. Il lui restait encore quelques billets de mille et se fit nommer lui-même administrateur délégué par un conseil d'administration composé d'hommes de paille. On répondit à profusion des prospectus, on fit dans les journaux des annonces alléchantes pour chercher des actionnaires. D'assez nombreux souscripteurs apportèrent aussitôt de l'argent avec enthousiasme. Donc, ayant des fonds, on acheta des terrains, on dépêcha là-bas un ingénieur qui fit des sondages, et M. l'administrateur délégué accabla le comité et les actionnaires de rapports mirifiques. Puis, les choses en restèrent là. « C'est pourtant une affaire merveilleuse !» répétait Boisléger. On a découvert des flots filons d'une grande richesse. Oh, le jour où l'exploitation commencera, ce sera la fortune pour les actionnaires. Encore un peu de patience, encore un petit effort. Malheureusement, monsieur le délégué s'embourbait de plus en plus dans sa comptabilité et trouvait difficilement une justification de l'emploi des fonds qui lui étaient confiés. La dernière assemblée des actionnaires avait été quelque peu orageuse. Quelle serait la prochaine? Le jeune homme en était à ce tournant redoutable et réfléchissait péniblement à la meilleure façon pour lui de sortir de ce mauvais pas, en laissant la responsabilité à d'autres. Si je pouvais tirer encore, espérer quelque chose de Max, bougonnait-il à demi-voix en arpentant une vaste pièce situé au second étage d'une vieille maison de la rue Saint-Marc, qui représentait le siège social de la Société des Mines de L. Mais il n'y aura plus rien à faire de ce garçon quand il sera marié. L'argent de sa femme est sacré, comme il dit l'animal. Et puis, oh, Marguerite a l'œil, elle se méfiera de moi. Enfin, j'ai encore un peu de répit avant la prochaine réunion. J'ai le temps de voir venir le grain. À ce moment, la porte s'ouvrit et Max se précipita vers son ami en disant « Oh, je suis en retard, mon vieux, mais pardonne-moi, je suis tellement bousculé. » Et toi, mais qu'as-tu à faire de si pressant? Oh, c'est vrai, tu sais pas encore. Eh bien, décidément, j'épouse Marguerite Verdier. Oh, bah, comme ça, tout de suite, mes compliments. Mais ma vieille brute, pas demain. Seulement, tu comprends, j'ai un tas de choses à faire, car je veux liquider complètement ma situation personnelle avant d'entamer les questions d'intérêt avec ma fiancée. Ta fiancée? Oh là là, tu en as plein la bouche. Blague pas, Rémi. Je suis pas sûr que ça. Rémi leva les bras au ciel, puis s'écriant: Mais qu'est-ce que tu chantes donc? Comment, tu épouses un beau sac qui t'apporte, c'est toi-même qui le dis, une femme charmante, et t'es pas satisfait? Qu'est-ce qu'il te faut? Oh, mon cher ami, j'ai beaucoup plus de chance que je ne le mérite, je le sais. Et je me demande même si je vais oser me lier à cette femme, cette fille si droite, si confiante, dans des dispositions de cœur où je suis. Bon, réellement, j'ai des scrupules. Pourquoi? Puisque Marguerite t'aime, elle est ravie de t'épouser, je suppose. Oui, elle a l'air ravie, la pauvre. Enfin, je ferai tout ce que je pourrai pour qu'elle ne soit pas trop désillusionnée. Et puis, peu à peu, j'oublierai peut-être Léa. Ah, tu l'as revue? Ah, il fallait bien pour lui annoncer mon mariage. L'entrevue a été terrible. Alors, n'y pensons plus. Cependant, puisque nous en sommes à ce chapitre, je voudrais te demander quelque chose. Quoi donc? Bien, c'est de veiller sur la pauvre petite. Elle va se trouver si seule. Elle était si triste l'autre jour. Tu iras quelquefois la voir et tu lui diras, et tu me diras si elle n'est pas trop malheureuse. Oh, ça c'est une mission délicate, railla Boélager en coulant un furtif regard à son confiant ami. Mais qui sait si Mademoiselle Perret recevra mes visites avec plaisir? Oh, mais je suis sûr qu'elle les recevra avec le plus grand plaisir, mon vieux. Léa sait combien je t'aime et cette raison suffira à te faire bien accueillir. Alors, Mac, je ferai cela pour toi, car personnellement, je n'ai pas une grande sympathie pour le père Perret. Merci, cher, merci. Maintenant, autre chose. Tu seras témoin, mon mariage? Ah, naturellement, vous faites une grande noce. Mais non, quelle idée! Une petite cérémonie de famille, un déjeuner idem, et la fuite. Voilà nos projets. Et ta famille, qu'est-ce qu'elle dit de ce coup-là? Oh, maman m'a servi des choses désagréables quand je suis allé ce matin lui annoncer la nouvelle. Au fond, elle pense que Mademoiselle Verdier doit être tout à fait folle pour épouser un type comme moi. Pourvu qu'elle n'aille pas dire ça à Marguerite quand elle viendra la voir demain, car c'est elle qui se dérange, la chère petite. Décidément, tu trouves tout bien chez ta future. Excellente disposition pour entrer en ménage. Ton sort me fait envie. Comment, toi, le mondain, le frivole, le papillon qui court de fleur en fleur, tu as envie le sort des gens qui se marient et tu voudrais les imiter? Eh, pourquoi pas, si je trouvais quelqu'un à mon goût. Mais je n'ai pas eu, comme toi, la veine de découvrir une héritière libre de toute parenté encombrante. Moi, oh, je connais bien une petite personne à qui je ne déplairais peut-être pas, mais elle a une famille, un père surtout. Et qui ça, Rémi? Qui ça? S'écria vivement Max, soudain dévoré de curiosité. Ben, la jeune Clotilde Paradis, parbleu. Tu l'as pas vue l'autre soir, passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quand j'ai daigné m'occuper d'elle? Mais non, tu n'as rien vu, tu étais trop occupé de tes propres affaires. Oui, j'avoue que je n'avais pas idée de cela. Je me figurais que cet enfant avait 12 ans. Mais 18, mon cher, 18. C'est le bon âge pour devenir une femme souple et docile. Ah, tu verras, toi, si tu mènes Marguerite. Mais je n'ai pas du tout l'intention de la mener. D'ailleurs, j'avoue humblement qu'elle est beaucoup plus raisonnable que moi. Mais voyons-toi, que comptes-tu faire? Bon, Seria, je te dis, oui, je fais la cour à la petite tout l'été. Il n'a pas été insensible. Mais je n'ose me hasarder à une démarche positive, car M. Praline n'a pas l'air trop bien disposé à mon égard. Ils sont riches, ces gens-là? Oh, très riches, murmura Rémi. Madame Rally a apporté une grosse fortune à son mari, qu'elle a épousé par amour. Ils n'ont qu'une fille, ils lui donneront une belle dot. Depuis, M. Praline a des tas de relations. Il pourrait facilement caser son gendre quelque part. Mais voilà, il faudrait d'abord devenir son gendre. J'espérais, continua-t-il en frappant rageusement sur les registres placés sur la table, que cette stupide affaire allait nous donner des bénéfices et nous mettre dans une bonne situation, mais pas du tout. Ah oui, c'est vrai, au fait, tu m'avais convoqué pour me parler de ça, et me voilà bien loin de la mine. Non, je voulais simplement te faire signer quelques pièces qui me sont nécessaires pour terminer mes comptes. Il faut que tout soit en règle pour le prochain conseil. Allez, tiens, mets-toi là et signe. Max s'assit avec résignation et parcourut machinalement les paperasses étalées sous ses yeux. Tiens, tiens, s'écria-t-il, je reconnais avoir touché, mais j'ai rien touché du tout. Au contraire, mais sinon, voyons, interrompit Boisleger avec impatience, c'est pour la forme. Nous avons acheté des terrains, il a fallu les payer, n'est-ce pas? Et que l'argent est passé par tes mains ou par les miennes, qu'est-ce que cela fait? J'ai indiqué l'emploi dans mon rapport, veux-tu le lire? Oh non, par exemple, j'y comprends rien. Tiens, je signe, puis arrange-toi. Tout de même, si cette sale mine me rendait les 25 000 francs que j'ai fourrés là-dedans, ça me ferait bien plaisir. C'est gênant de ne pas avoir le sou, surtout en ce moment où je suis entraîné à tant de dépenses. Bon, tu paieras tout plus tard. Oui, mais cela me répugne de faire encore des dettes qu'il faudra régler ensuite avec l'argent de Marguerite. Ta mère va bien te faire un petit cadeau de noces, je suppose. C'est fort douteux. Oh, diable, il est déjà 4h30, je m'en vais. Il faut que je sois à 5h, place Saint-Michel. T'as plus rien à me dire, Rémi? Eh non, non, Phil, ne te fais pas attendre, ta princesse. Et par exemple, si vous parlez des pralis chez les Letuel, tâche de souffler à Marguerite, de ne pas dire du mal de moi dans la maison. Elle a l'air au mieux avec ces dames. Sois tranquille, Marguerite m'a promis d'être très gentille pour toi, donc ne crains rien. Allez, au revoir, vieux camarade. Resté seul, Boisleger rangea soigneusement dans son portefeuille les papiers signés par l'imprudent Max. Puis, allant à la fenêtre, il regarda son ami s'éloigner. « Oh, quel bon garçon » soupira-t-il. « Oh, quel dommage !» Chapitre 8. « Alors, il va pleuvoir toute la journée !» s'écria avec dépit Lucien de Prévillac. « C'est tout de même pas de chance, mademoiselle Marguerite, pour la première fois que vous venez ici. » J'aurais tant aimé à vous montrer le jardin et à vous offrir un beau bouquet. « Ça ne fait rien, mon petit ami, » répondit Marguerite, qui tenait tendrement dans ses mains celle du pauvre infirme. « Aujourd'hui, je suis venu pour voir votre maman. Je ferai connaissance avec le parc une autre fois. » « C'est que, voyez-vous, » poursuivit l'enfant, « je suis si content, quand il fait beau surtout, » lorsque Max est ici, il est si bon et si complaisant. Il roule mon fauteuil partout, dans tous les sentiers où je ne peux pas aller, même avec mon âme. Aussi, vous aimez beaucoup votre frère. Oh oui! Pensez donc, j'ai pas d'amis, puisque je ne peux pas rien faire comme tout le monde. Max seul joue avec moi, me promène, m'amuse. Et quand il est ici, la maison n'est plus triste du tout. Mais votre maison n'est pas triste. Elle est si agréable d'abord. Puis vous avez votre maman, votre papa, votre sœur. L'enfant réfléchit d'une minute et murmura d'un air pensif. « C'est pas la même chose. J'aime beaucoup maman, mais elle est toujours si ennuyée, toujours depuis que je suis malade. Papa, oh, ben, il a du chagrin aussi, mais il le dit pas, et il s'en va. Je crois qu'il aime mieux ne pas me voir. » « Mais quelle idée !» protesta Marguerite, stupéfaite de trouver tant de clairvoyance chez ce pauvre être si frêle qui semblait n'avoir plus même la force de penser. « Oh, si, si, je sais ce que je dis, » répliqua Lucien. « J'aurais bien mieux fait de mourir dans ma grande maladie, il y a 2 ans. Les autres seraient plus tranquilles. Un infirme comme moi, c'est si encombrant. Il n'y a que Max qui a jamais l'air de s'apercevoir que je suis impotent. Il joue, il rit avec moi, comme si j'étais son camarade. Et je crois en effet que vous êtes le plus cher camarade de votre frère, mon bon Lucien. C'est vrai, il vous l'a dit. Cependant, il ne vient pas trop souvent le vilain. J'avais qu'une peur, c'est qu'il ne vienne plus du tout quand il serait marié. Aussi, je suis très content depuis que je vous vois. Et depuis que je vous ai vu. Tiens, tiens, pourquoi cela? Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je suis très méchante. Oh non, par exemple. Moi d'abord, j'aime les gens tout de suite ou pas du tout. Et je vous aime tant déjà. Je suis sûr que mon cher Max va être très heureux avec vous. Vous paraissez si bonne et puis vous êtes si jolie. Marguerite éclata de rire à cette déclaration enthousiaste, mais au fond, elle était un peu émue. En effet, l'accueil de Madame de Prévillac avait été d'une correction parfaite, mais si glaciale depuis que son arrivée, la jeune fille se sentait vaguement mal à l'aise. Max lui-même était guindé et avait l'air d'un étranger sous le toit de sa mère. Quant au baron, on ne l'avait pas encore aperçu. Seul l'élan, la franchise, la grâce de Lucien avaient mis un peu de douceur et de cordialité dans la réunion, et instantanément, son cœur aimant avait reconnu, dans celle qui allait devenir sa sœur, un cœur semblable au sien, et son affection pour Max lui avait fait comprendre quelle profonde affection Marguerite avait vouée à son fiancé. La jeune fille, de son côté, se sentait prise d'une grande pitié pour le pauvre petit être si cruellement éprouvé et s'apprêtait à lui rendre au centuple. « Ah, voilà papa !» dit tout à coup Lucien, qui contemplait avec désolation la pluie battant les vitres. Presque au même instant, le baron de Prévillac pénétrait dans le salon. Après avoir aimablement salué Marguerite, puis embrassé son fils, il donna une cordiale poignée de main à Max en disant oui, « Je suis désolé d'avoir été obligé de m'absenter aujourd'hui, mais j'ai expédié nos affaires aussi rapidement que possible et je rentre heureusement assez tôt pour pouvoir vous offrir mes compliments. Alors, mademoiselle, vous avez le courage d'épouser ce mauvais sujet. »
« Oh, papa !» protesta Lucien avec indignation. « Marc, c'est pas un mauvais sujet. »«
Voyez-vous ce jeune champion. Eh, il fait pas bon attaquer ses amis. »« Eh bien, mon fils, pour te faire plaisir, je dirais que Max est un très beau garçon, que j'aime beaucoup. J'ajouterais même qu'avec une femme douée de toutes les vertus, comme l'est Mademoiselle Verdier, il fera sûrement un excellent mari. » « Là, es-tu content ?»
Max lança un regard reconnaissant à son beau-père pour ses bonnes paroles et pour l'attention qui les inspirait. Il n'ignorait pas, en effet, que le baron était peu enclin aux longs discours, surtout devant sa femme, et il lui savait gré de son effort d'amabilité. Au reste, il fallait reconnaître en sa louange que M. de Prévillac s'était toujours montré bienveillant pour le jeune homme. D'une nature calme, joviale et indifférente, il supportait philosophiquement le caractère de son épouse, mais il la jugeait avec assez de clairvoyance.
Plus d'une fois, il avait atténué dans la mesure du possible, et quand cela ne dérangeait pas trop, les rigueurs de la baronne envers Max, pour qui il avait une réelle affection. Car, par un phénomène singulier, toute la famille de Prévillac avait de tout temps voué à Max Duplan une affection profonde. Affection qui dégénérait, chez l'être nerveux et sensible qu'était Lucien, en une véritable passion fraternelle. Sa mère, qui était terriblement jalouse, en souffrait même cruellement. La baronne fut donc vivement froissée ce jour-là par l'accueil enthousiaste dont Marguerite fut l'objet de la part de son enfant chéri. L'amabilité de son mari à l'égard de Mademoiselle Verdier acheva de l'aigrir, et elle résolut de se montrer aussi désagréable que possible. « Où avez-vous l'intention de vous installer ?» interrogea le maître de maison. « Pas trop loin d'ici, j'espère. »« Bon, nous irons où Marguerite voudra, » répondit Max. « Il est cependant question de nous loger dans la banlieue pour l'été prochain, tout au moins. Quand j'aurai trouvé une situation, nous rentrerons peut-être pendant l'hiver à Paris. »« Comment ?» s'écria la baronne. « T'as l'intention de travailler ? Oh, c'est prodigieux !» « Mais mademoiselle Verdier, vous m'avez changé mon fils. »« Mais puisque c'est en bien, madame, il ne faut pas m'en vouloir. Il faut espérer même que mon influence sera toujours aussi salutaire. »« Vous savez, avant la noce, les hommes ont de très belles résolutions. Après, c'est autre chose. »« Allons, ma chère amie, ne dites pas du mal du mariage devant des fiancés. » observa le baron en riant. Écoutez, Max, puisque vous avez l'idée de vous établir dans notre région, je connais une jolie villa qui ferait très bien votre affaire. Quelque chose de pas trop grand, tout neuf, très gentiment arrangé, et qu'on voudrait sûrement pour peu de choses. Et qu'est-ce que c'est donc? Mais la villa de Berson à Marly. Comment, ils veulent vendre? Mais oui. « Ah, vous ne savez donc pas qu'il divorce. La maison appartient à madame et elle veut s'en défaire au plus tôt. »« Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Les garçons divorcent? Et pourquoi? Ils avaient l'air très heureux, ces gens-là. Toi, Max, tu ne t'aperçois jamais de rien, » insinua aigrement madame de Prévillac. « Il était visible, au contraire, que ce ménage depuis longtemps allait fort mal. » Claire Berceau a 10 ans de plus que son mari. Maintenant, elle est vieille, souvent malade. On lui s'en est lassé. Ses affaires marchent bien. Il a planté là sa femme pour en épouser une plus jeune, probablement. Aussi, on n'a pas l'idée de se marier dans ces conditions. C'est une folie que l'on paye tôt ou tard. Marguerite rougit violemment et baissa les yeux, sans cependant trouver un seul mot à répondre à ce discours, prononcé évidemment dans le but de la blesser. Elle surprit cependant à la dérobée le regard courroucé que Max lança à sa mère, et cela ne contribua pas à diminuer son embarras. « Eh, mon Dieu !» continua innocemment le baron. « Madame Berceau n'était pas une mauvaise femme !» Elle a beaucoup aidé son mari au début de leur union, quand la situation n'était pas brillante. Moi, je trouve que Berson agit indignement en l'abandonnant maintenant. » L'excellent homme parlait dans la simplicité de son cœur, sans songer une minute que cette conversation pût être désobligeante pour Marguerite. Il trouvait Mademoiselle Verdier jeune, jolie, charmante, et il estimait que son beau-fils avait une rude chance. Aussi, comme aucun rapprochement ne pouvait se faire dans son esprit entre cette belle personne et Madame Berson, la petite méchanceté de sa femme lui avait complètement échappé. Marguerite, douloureusement affectée, ne trouvait rien à dire et s'était assise à côté de Lucien, en faisant un grand effort sur elle-même pour retenir ses larmes. Max était furieux, naturellement. Craignant de ne pouvoir se contenir plus longtemps, il jugea prudent de fuir. Ma chère amie, dit-il tout à coup à sa fiancée, oh, je crois qu'il est temps de songer à notre train. Il ne faut pas rentrer trop tard. Par cette humidité, vous pourriez prendre froid. Mon père, aurez-vous la bonté de nous faire conduire à la gare? Nous avons un train dans 25 minutes. Mais mes enfants, je vais vous faire reconduire jusqu'à Paris. Le retour en chemin de fer est une vraie corvée pour un temps pareil. Je ne veux pas que votre fiancé s'enrhume, Max, et emporte un mauvais souvenir de sa première visite au buisson.
Papa, papa, je voudrais bien donner un bouquet à mademoiselle, implora Lucien. Elle m'a dit qu'elle aimait tant les fleurs. Dans l'auto, cela ne m'embarrassera pas. J'ai vu hier des glaïeuls superbes dans la serre. Ils sont pas mouillés, ceux-là, on peut les cueillir.
C'est une bonne idée, mon fils. Je vais commander le bouquet moi-même.
Marguerite avait remis son manteau, ses gants, et s'apprêtait à guitter, et le cœur bien gros. Cette maison, elle était arrivée si joyeuse, 3 heures auparavant. Elle s'approcha du pauvre infirme, et plongeant dans les yeux magnifiques de son nouvel ami, ses yeux embués de larmes, elle murmura tout bas, d'une voix émue.
« Adieu, mon petit Lucien, vous ne m'oublierez pas, dites, même s'il ne revenait pas. »
L'enfant la regarda tendrement et lui tendant les bras, lui dit en l'embrassant,
« Non, ma grande sœur, je ne vous oublierai pas, mais vous reviendrez bientôt, parce que je vous aime et que je serais trop malheureux si je ne vous voyais plus. »
Madame de Prévillac contemplait de loin ses effusions avec des yeux durs et la bouche pincée. Elle allait certainement proférer quelques réflexions désagréables quand le baron reparut. Il tenait dans ses bras une énorme botte de glaïeul blanc, rose, pourpré, tacheté, moucheté, qu'il remit à sa future belle-fille en lui baisant galamment la main. Marguerite remercia chaleureusement. Après quoi, s'approchant de la baronne, sans trouver la force d'articuler de mensongères paroles de gratitude, elle s'inclina et murmura simplement « Au revoir, madame !» Puis elle sortit du salon, traversa le vaste hall et monta dans l'automobile, suivie de Max, renfrogné et silencieux. La voiture roulait déjà depuis une demi-heure, et ayant dépassé Vaucresson puis Garches, descendait maintenant à fond de train à la grande côte de Suresnes, quand les deux jeunes gens n'avaient pas encore dit un seul mot. Tous deux, ils pensaient à la même chose, mais avec des sentiments différents. Marguerite entendait sans cesse résonner à ses oreilles les paroles cruelles qu'on avait lancées à son adresse. Elle aussi serait vieille bientôt, malade peut-être. Et Max se lasserait d'elle, l'abandonnerait. Oh, elle avait été folle de consentir à ce mariage. Enfin, il était encore temps de le reprendre. Un brusque chaos la tira de ses pensées. L'automobile était arrêtée devant la porte de Suresnes. Et un employé d'octroi, tout en demandant le compte de l'essence, plongeait un regard curieux dans la voiture. Après avoir entendu la déclaration du chauffeur et reçu des voyageurs l'assurance qu'il n'avait rien à déclarer, l'homme rentra dans sa cahute et le véhicule reprit sa course à travers le bois de Boulogne. « Marguerite, dit tout à coup Max en prenant la main de sa fiancée, qu'avez-vous? Pourquoi êtes-vous silencieuse depuis si longtemps? Mais il me semble que vous n'êtes pas trop bavard non plus, mon ami. » Oh, moi, c'est parce que je suis en colère et que, dans ce cas-là, il est préférable que je me taise, car je dirais des sottises.
Vous êtes en colère contre moi?
Interrogea la jeune fille. Contre vous, grand Dieu! Ah, il m'en craque plus que ça. Non, non, je vous admire au contraire, chaque jour davantage. En toutes circonstances, je vous trouve parfaite, à tel point que je suis humilié de mon indignité. Et que j'ai des scrupules.
Mais quelle idée, Max! Moi qui pensais au contraire que vous alliez faire une irréparable folie en m'épousant.
Qu'est-ce que vous dites?
que c'est moi qui fais une folie. Mais oui, c'est cela que je pense. Vous êtes si jeune, Max, tellement plus jeune que moi. Car les femmes vieillissent beaucoup plus vite que les hommes. Dans 10 ans, vous regretterez de m'avoir épousé. Vous aimerez une femme plus jeune, comme votre ami Berson. Alors, il vaut mieux que nous nous séparions maintenant. Il est encore temps, n'est-ce pas? Oh, Max, cher Max. Et la pauvre Marguerite, incapable de se contenir plus longtemps, éclata en sanglots. Oh, c'est cela, s'écria le jeune homme avec emportement. Vous voulez m'abandonner? Pour quelques paroles perfides, vous me retirez votre affection, votre confiance.
Calmez-vous, calmez-vous, mon ami, supplia la jeune fille, épouvantée de cette violence et s'efforçant de reprendre elle-même un peu de sang-froid.
Me calmer, mais comment donc faire? Y a-t-il pas de quoi être outré, voyons?
Mais cher, ce n'est pas de vous dont je doute, c'est de moi. J'ai peur de ne pas vous rendre heureuse, de vous être bientôt à charge en raison de notre différence d'âge. J'ai tremblé dès le premier jour où je vous ai aimé. Et aujourd'hui, en écoutant la triste histoire de cette pauvre femme, mes craintes sont revenues.
Allons donc, Marguerite, quelle folie! Est-ce que les deux situations sont comparables? Madame Berson a toujours été laide d'abord, et bête. Tandis que vous... Voyez, mon beau-père n'a pas eu une minute l'idée d'assimiler les deux cas, sans quoi il n'aurait pas dit un mot de tout cela, le pauvre homme. Il a fallu toute la malice de ma mère.
Max, ne dites pas de mal de votre mère, elle souffre, je l'ai vue.
Et vous, âme généreuse, vous lui pardonnez ce qu'elle vous a fait?
Elle ne m'a rien fait, elle a raconté une histoire vraie.
Ma douce fiancée, mais vous êtes un ange, murmura le jeune homme, réellement ému, en se penchant et en baisant tendrement les belles mains tremblantes qu'il tenait dans les siennes. Maintenant, continua-t-il, vous allez rétracter toutes les absurdités que vous venez de me débiter et me promettre d'oublier les incidents malheureux de cette journée. Allons, rétractez, promettez.
Mais c'est donc vrai, balbutia-t-elle, vous m'aimez, vous tenez à moi.
Mais si, j'y tiens, mais quelle question! Ah, nous arrivons, je ne veux pas vous accompagner maintenant chez votre sœur. Je suis encore trop ému, et pourtant je voudrais vous revoir ce soir, m'assurer que vous êtes devenu raisonnable. Je reviendrai à 9 heures, vous voulez bien?
Il faut bien que je veuille. Vous faites de moi tout ce que vous plaît. À ce soir, tyran.
À ce soir, pauvre victime. Ils se quittèrent en souriant. Les nuages étaient dissipés et Marguerite, rassérénée, monta lentement l'escalier en cachant son visage brûlant dans les frais pétales de son bouquet. Max arriva place Saint-Michel à 9 heures et trouva installé, seul dans le salon, sa fiancée qui l'attendait. Elle avait quitté son costume tailleur et revêtu une coquette robe d'intérieur en soie souple, à forme droite, comme elle les affectionnait, qui lui donnait sensiblement la même apparence que la toilette qu'elle portait au bal des Pralies. Cette analogie frappa le jeune homme et lui rappela violemment cette journée qu'il essayait pourtant d'oublier. La jolie robe de soie lui en rappelait en effet une autre. À la place de Marguerite, il revit dans un éclair le cher petit fantôme vêtu d'or et coiffé d'or, puis 2 grands yeux bleus qui le regardaient avec un air de reproche. Il ferma les paupières, ébloui, et s'assit en poussant un long soupir. « Ah, que la vie est donc difficile, mon Dieu !»«
Max, vous êtes souffrant ?» questionna tout à coup une voix douce, légèrement anxieuse.
Le son de cette voix avait une infinie séduction. Oh, le charme opéra aussitôt, et la pernicieuse vision s'évanouit. Le jeune homme qui s'était ressaisi répondit « Oui, Marguerite, je suis là. Cette journée a été rude. Moi, La colère et les émotions me brisent. Oh, j'ai pas votre énergie et votre calme. C'est merveilleux, mais vous êtes fraîche comme une rose ce soir.
Comme une rose d'automne, ajouta la jeune fille avec mélancolie.
Mais je ne suis pas toujours aussi courageuse que cela. Maxement, je vais vous expliquer. Tout ce qui touche aux choses du cœur m'atteint profondément. Ainsi un chagrin qui me viendrait de vous me mettrait en révolution, m'affolerait. Tandis que les petites contrariétés de la vie me laissent au contraire très calme.
Alors, belle dame, si j'étais méchant pour vous, cela vous ferait beaucoup de peine?
Mais une peine si grande, si profonde, que j'aimerais mieux renoncer à vous tout de suite plutôt que de m'y exposer.
Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je jure de n'être jamais méchant pour vous. Là, je le jure.
Bon, allons maintenant, parlons sérieusement. Quand nous marions-nous?
Mais à la fin du mois prochain, nous l'avons dit.
Comment à la fin? Mais cela fait 5 semaines, ça.
Oh non, non, c'est trop. Le 15 au plus tard.
Allons, mettons le 20. C'est un mardi, ce sera très bien.
Soit, va pour le 20.
Nous partons le soir pour le midi et l'Italie. Nous revenons au printemps pour nous installer chez nous.
Excellent programme, n'est-ce pas?
Ah, j'y pense, mais vous êtes-vous occupé de vos papiers?
Félix se charge de tout cela.
Fort bien, et le sus, dit Félix. A-t-il pensé au contrat?
Il faut que je le voie, ce papier.
Ah, vous savez, je deviens un homme sérieux, maintenant un vrai chef de famille.
Je l'ai ici, ce projet, murmura timidement Marguerite. Voulez-vous que je vous le montre?
Oui, ce sera fait. Nous n'y penserons plus ensuite.
La jeune fille disparut et revint au bout d'un instant, tenant à la main le fameux papier qu'elle tendit en tremblant un peu à son fiancé. Celui-ci le déplia et se mit à le parcourir tranquillement.
« Mais qu'est-ce que c'est que cela ? » dit-il tout à coup.
« Ce n'est pas du tout un projet de contrat total. »
« Non, c'est vrai. Je n'ai pas voulu, Max, faire un contrat total. »
« Mais pourquoi c'était convenu ?»«
Oh, peu importe, allez, mon cher Max. Tout ce qui est à moi sera à vous. » Vous gérerez mes affaires pour le mieux. J'ai absolument confiance en vous. Puisque je vous confie ma vie, mon bonheur, je peux bien vous confier mon argent. Acceptez-le.
Oh, ma chère Marguerite, murmura le jeune homme, attendri par tant de confiance et de tendresse.
Je ne trouve pas de mots pour vous exprimer ma gratitude. Je ne pourrais vous la prouver que par mes actes.
Vous verrez que vous n'aurez pas du tort de croire en moi. C'est déjà bien assez de recevoir de vous tant de choses.
Non, gardez votre argent. J'ai fort mal géré mes affaires et je ne suis pas qualifié pour prendre la responsabilité d'une fortune qui ne m'appartient pas.
Mais si, cette fortune vous appartiendra comme à moi.
Non, 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 ce n'est pas la même chose. Je veux que votre capital soit à l'abri de toute aléa, de toute surprise. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Voici votre projet, Marguerite. Rendez-le au notaire et priez-le de le refaire dans le sens que je vous ai indiqué.
La jeune fille reprit docilement le papier, mais en poussant un gros soupir. Elle renonçait avec peine à son généreux projet.
Vraiment, je vous fais du chagrin, mon ami, questionna Max.
Oui, j'aurais tant voulu.
Je sais, vous auriez voulu me donner cette preuve d'estime en dépit de tous les conseils contraires et des sages avertissements qu'on vous a prodigués, mais dans le cas présent,
vos parents ont raison, et je pense comme eux.
Bien, bien, n'en parlons plus. Je ferai ce que vous désirez.
Ah, je voulais encore vous demander autre chose. Vous savez que ma sœur Jeanne est dans une situation peu brillante. L'aide que je lui apportais va bien lui manquer. Et si vous y consentez, je pourrai continuer à payer la pension de mes neveux que j'aime beaucoup et qui sont une grande charge pour leurs parents. Mais ma chère amie, vous ferez tout ce que vous voudrez. Il est tout naturel que vous aidiez votre sœur, vous n'avez pas besoin de me demander mon assentiment pour cela. J'aimerais mieux vous en parler d'avance. Je ferai ainsi la promesse en toute sécurité.